Voilà. Je suis branché. Ah, je vis une vie passionnante, hein, parce que je suis rentré de Pays de Galles, Angleterre, la Grande-Bretagne, hier soir très tard, non, vendredi soir très tard. Donc on est allé au lit, et samedi matin hier, on s'est réveillé, et Myriam est allée à la salle de bain. Elle est toute vulnérable dans sa serviette. Et elle dit, c'est quoi cette tache sur le plafond? C'est quoi cette tâche? Et moi j'ai entendu, je regarde, c'est comme s'il y a de l'eau. Hein. Mais bon, je regarde une grosse tâche d'humidité. Je dis, oh, on a dû avoir une tuile déplacée, allez, je vais monter dans le grenier, je vais voir. Mais quand je me suis approché du grenier, il y avait des milliers de guêpes. Des milliers de guêpes, j'ai dit, mince, et c'était l'humidité de leur nid qui... Et donc là, je suis allé, et Sylvia me dit, mais c'est quoi tout autour du tuyau là? C'était comme les crottes de pigeons, hein, qui étaient... J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc là, je suis monté, j'étais un peu en équilibre entre une chaise que j'ai vite placée, parce qu'on fait les choses vite, hein. Et après, je marchais sur quelque chose en plastique. Ouais, ouais. Et donc, toi, tu étais très concerné à ce moment-là. Tu as tout cassé. Donc là, j'ai commencé à gratter. J'ai touché comme ça. J'ai gratté un peu. Et tout d'un coup, il y avait un trou parce que c'est le plâtre qui était rongé. Et tout d'un coup, j'ai vu deux ans, une petite tête qui sortait. Une tête de guêpe. Et j'ai dit, mince, les guêpes vont envahir notre maison par là. Alors moi, j'étais là. Je dis, vite, c'est bien, vite. Vite, il faut chercher quelque chose. Et elle dit, oh mais tu vas casser ma boîte à linge. Et je dis, non mais allez chercher un peu de quelque chose. Et donc elle cherchait un peu de scotch. Et j'étais là, et il y avait des guêpes qui entraient. Mais moi j'ai réussi à colmater un peu cela. Et après, voilà le secret. Il faut attendre la nuit quand les guêpes dorment. Et donc quand les guêpes... Hier soir, ils étaient tous endormis. Mais il faut qu'il y ait un peu assez de lumière pour que je monte, que je vois où c'est. Donc, je suis monté dans le grenier et j'étais sur mon échelle. Et là, de l'extérieur, j'ai pris une grosse bombe. Et j'ai trouvé leur entrée. Et pendant que je faisais, ils m'attaquaient. Hein, mais voilà, je priais. J'étais perché sur mon échelle. Et il faut faire, j'ai vidé ma bombe d'insecticide. Et après, en vidant la bombe, c'était écrit sur le mur, ne pas utiliser pour détruire les nids de guêpes. Je ne sais pas pourquoi il marque ça, mais bon. Et après, j'ai mis un peu de ciment que j'avais préparé d'avance. Et j'ai dit, moi, j'espère qu'ils ne vont pas sortir. Et ce matin, il n'y avait rien. Je ne sais pas, soit ils sont morts, on verra. Je les ai noyés, peut-être. Mais bon, alléluia. Tu as un homme qui a triomphé des guêpes devant vous ce matin. Mais bon, si je rentre et ils ont repris vie, hein. J'espère qu'ils ne croyaient pas trop en Jésus, qu'il n'y a pas de résurrection pour les guêpes. Et aussi, quand j'étais en Grande-Bretagne, j'avais peur de rouler parce que et ils ont bloqué toutes les autoroutes en Angleterre parce qu'il y a des problèmes avec le tunnel du côté Calais. Il y a des grèves, il y a toutes sortes de choses. Et donc, ils ont bloqué tous les camions et le M20, c'est un grand parking. Hein, c'est des milliers de camionneurs qui doivent rester 2-3 jours là, campés. C'est affreux. Et à cause de ça, ils font des déviations partout parce que toutes les voitures doivent passer ailleurs. Et ça bouche en tout. Et donc, ce vendredi, j'avais peur. Je dis, mais si je pars vendredi, oh là là, il va avoir les heures de pointe sur le M25, le M25. Et je déteste les bouchons. Moi, je peux attendre 10 minutes, 15 minutes. Mais après, c'est insupportable pour moi. Il y a les gens qui supportent, mais pour moi, c'est insupportable. Hein, je ne suis pas encore sanctifié dans ce domaine de ma vie. Et donc... Mais gloire à Dieu, on a bien roulé. Et donc, mais le matin, j'ai prié quelque chose qui m'a aidé. J'ai dit, mais Seigneur, encourage-moi. Encourage-moi ce matin. Et donc, il m'a donné des versets. Et je vais partager ces versets avec vous. Parce que ça marche, c'est vraiment pratique. Et ça peut être des versets qui peuvent vous accompagner pendant l'été, que vous devez affronter des guerres pour la circulation en Angleterre, je ne sais pas. Il y a toujours des choses. Hein? Mais voici des versets qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Et c'est Romains 12, chapitre 12. Romains 12 et verset 12. Hein? C'est facile. 12-12. La solution 12-12. 12-12. Peut-être les guêpes qui m'ont influencé. 12-12. Romains 12, 12. Et donc, voilà, je vais le lire. C'est juste un verset, mais tellement riche, tellement concentré. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Trois verbes, trois choses. On peut aller méditer simplement. Réjouissez-vous. Soyez patients. Persévérez. Et là, j'ai gardé ces versets dans mon cœur. Et c'est vrai que quand je dormais jeudi soir, je ne me réjouissais pas trop parce que je prévoyais les bouchons. Je m'imaginais bloqué pour 5 heures sur l'autoroute en Angleterre. Et là, c'était l'inquiétude. L'inquiétude qui tombait sur moi. Parce que j'avais pas branché l'espérance. J'avais branché l'inquiétude. Et donc j'étais prophétiquement en train d'imaginer, je vais passer des heures et des heures, ça va pas aller bien. Et même hier, quand j'ai téléphoné à mon frère, j'ai dit, allez, je vais attaquer des guêpes. Il m'a dit, oh, tu dois pas faire ça, tu vas tomber, tu vas être piqué, et pour le mariage, tu vas être tout gonflé après, quand on prend les photos et tout ça. Et donc là encore, et peut-être il avait un peu raison, mais j'ai commencé à m'inquiéter, oh, est-ce que je dois vraiment le faire? Et donc, j'étais pas tellement dans la joie. Et je vois, on a une grande capacité en nous de s'inquiéter et de peindre l'avenir en noir avec des problèmes. Et je dis, il faut avoir les pieds sur terre. Mais Jésus, au Saint Paul ici, inspiré par le Saint-Esprit, il dit « Réjouissez-vous en espérance ». Et donc, il y a une parole. « Demain sera meilleur ». Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment s'accrocher à ça ?« Demain sera meilleur ». Oh mais, mon demain, non ? Non mais, vraiment, notre demain, l'ultime demain, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'ultime demain, c'est nous ressusciter ensemble avec lui. Magnifique. Ça, c'est notre demain. Il y a un grand demain. Mais même nos petits demains. Je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à vivre cette espérance que demain sera meilleur. Parce que si demain n'est pas meilleur, oh là là. Parce que nos aujourd'hui sont quelquefois très tristes, mais demain, ça sera meilleur. Demain, ça sera meilleur. Et trop de personnes vont vous dire, non, demain ne sera pas meilleur. Demain sera pire. Et toutes les actualités, tout ce qu'on prévoit, demain sera pire. Là, c'est une manière de voir. Mais moi, j'ai dit, non, Seigneur, je veux m'accrocher à l'espérance. Et je sais qu'avec toi, Jésus, mon demain sera meilleur. Donc, je veux vous dire ce matin, demain sera meilleur, même si aujourd'hui c'est difficile. Réjouissez-vous en espérance. Et après, Jésus, quand il parlait à ses disciples, ils étaient tout tristes. Ils avaient fait la Sainte Cène et Jésus dit, je vais mourir sur la croix, je vais vous quitter. Ils étaient tristes. Mais Jésus a dit, voilà, il y a la tristesse, mais demain sera meilleur. Il a dit d'une autre manière, en Jean chapitre 16. En Jean chapitre 16, il a utilisé l'image d'une femme qui enfante. Et en verset 20, hein, Jean 16, verset 20, il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Bon, il y a les pieds sur terre. Hein, il n'est pas triomphaliste, voilà, irréel, l'illusion, ou pays de bisounours, comme on dit, hein. Il est là, il y a la tristesse, mais, votre tristesse sera changée en joie. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Quelquefois, on a notre heure qui arrive, et une heure d'épreuve. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant et ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Quelquefois, même nos tribulations, ça enfante un avenir. Ça enfante la foi en Jésus. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. Alléluia. Et la clé de tout cela, c'est quand il dit, je vous verrai de nouveau. Il faut avoir la vision de Jésus pour avoir de l'espérance. L'espérance n'est pas un effort humain. Ce n'est pas de dire, voilà, je vais penser positivement, je vais utiliser les techniques humaines. C'est de revoir Jésus. C'est de revoir Jésus avec les yeux du cœur. C'est de dire, voilà Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse te voir de nouveau. Et chaque fois que tu vois Jésus, voilà, tu vois de l'espérance. Parce que Jésus est notre espérance. Et donc, je vous encourage ce matin, pas à naître de nouveau, mais à voir Jésus de nouveau. Que quelquefois nos yeux sont un peu affaiblis par la tristesse, mais de lever les yeux, il est toujours là. Voilà, je me réjouis dans l'espérance, parce qu'il est avec moi. Et donc, la clé de l'espérance, c'est de renouveler notre relation avec Jésus-Christ. Et bien sûr, dans 1 Timothée 1, on peut le trouver dans d'autres parties de la Bible, mais très simplement, Paul écrit, 1 Timothée chapitre 1, verset 1, « Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. » Christ Jésus, notre espérance. Si je suis en manque d'espérance ce matin, tournez les yeux vers Jésus-Christ. Tournez les yeux vers Jésus-Christ. Comment ne pas être en espérance après avoir chanté ces beaux chants ce matin? Je ne veux être qu'à toi, Jésus, mon roi. Et donc, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans la tribulation. Parce que bien sûr, il y a aussi les moments un peu plus difficiles dans notre vie. Soyez patient. C'est le mot en grec pour la patience, c'est hypomero. Et ça veut dire d'être sous un fardeau. Quelquefois, on est un peu sous des pressions. Et il dit, il ne faut pas craquer, parce que c'est trop facile. C'est pas trop facile, mais on est toujours tenté à craquer, à lâcher. Je ne peux plus supporter cette tribulation. Cette chose difficile, c'est comme moi, c'est une petite chose comparé aux réalités difficiles de certains. Mais moi, je ne supporte pas d'être dans des bouches. Ça me casse. Je veux sortir, je veux râler. Et je dois supporter. On ne peut rien faire d'autre, finalement. Mais même quand j'arrivais là, j'étais content. Je pense que Dieu fait certaines choses exprès. J'étais sur la M20 il y a une semaine. Je roulais bien en voiture, il n'y avait rien. Je regardais des autres, tout était bloqué. Mais moi, je roulais bien et tout d'un coup, paf, accident devant nous, 100 mètres avant nous. Il y avait des immigrés ils étaient cachés dans un camion en Angleterre. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ils essayent de sauter de leur camion pour trouver asile en Angleterre. Mais il ne faut pas trouver asile à 120 km à l'heure. Et donc là, ils étaient gravement blessés. Et il y avait un hélicoptère qui arrivait avec l'ambulance de l'air. Et on était bloqués sur l'autoroute pour 2 heures. Il n'y avait rien à faire. On était juste là sur le macadam. Donc, soyez patients. Allez, Robert, soyez patients. Je méditais. Soyez patients. J'ai dit, mais je vais craquer, je vais crier. Non, soyez patients dans la tribulation. C'est une toute petite tribulation de chaque jour. C'est rien. Il y a beaucoup plus des gens qui vivent des pires tribulations que ça. Mais soyez patients dans la tribulation. Et là, encore un encouragement de 1 Pierre 1, 6. 1 Pierre 1, 6. Voilà, Pierre. Lui, il dit, voilà. Vous en tressaillez d'allégresse. Non. Ouais. Quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves. Donc je pense que chacun ici, sans demander des témoignages, chacun pouvait dire, moi je suis affligé par telle et telle épreuve dans ma vie. Je ne connais personne qui est sans épreuve. Et donc on peut dire, mais Dieu, si tout le monde a des épreuves, est-ce qu'il doit avoir un sens à tout ça? Écoutez, ce n'est pas parce qu'on est les pires pécheurs que tous les autres. Et toute l'Église, et même peut-être dans d'autres Églises, tout le monde, il passe par des moments difficiles. Et il dit dans ce passage, parce qu'il le faut, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Mais il y a un sens à tout cela. Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Et donc, même nos épreuves, un jour, on va briller dans le ciel. Ça sera un sujet de louange. Les anges vont dire, tu vois comment il a traversé cette épreuve. Tu vois combien son cœur est devenu de l'or. Combien mon nom a été glorifié, même au travers de tout cela. Donc c'est une espérance, c'est un sujet quelquefois de maturité, d'être épuré par la difficulté quelquefois. Et donc soyez patient dans la tribulation. Et après, Jacques, il a quelque chose à dire à ce sujet aussi. Jacques 5, verset 10, il dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. » On a eu les bienheureux ce matin, hein? Mais aussi bienheureux ceux qui tiennent ferme. Bienheureux ceux qui tiennent ferme, parce que demain sera meilleur. Bienheureux ceux qui tiennent ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. C'est Job, il faut lire la fin de Job aussi. Il a été patient dans la tribulation et il a été récompensé à la fin. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur, écoutez bien, est plein de compassion et de miséricorde. Amen. Lent à la colère, riche en bonté. Lent à la colère, riche en bonté. Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Et donc, il ne faut pas blâmer Dieu. Il ne faut pas se rebeller contre Dieu. Il y a une grande tentation pour faire ça. Pourquoi, Seigneur, j'en ai marre? Clac, 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 clac. Oh, c'est permis pour 5 minutes, 10 minutes, une semaine, d'accord. C'est naturel, c'est normal d'être comme ça. C'est normal de râler. Mais il ne faut pas que ça devienne une partie de notre vie. Cette rébellion, cette amertume contre Dieu. Parce qu'au fond, il faut croire au fond de nous-mêmes que Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Regarde à la croix. Ça montre qu'il s'est donné pour nous délivrer. Pour que notre demain soit meilleur. Et c'est lui qui souffre pour nous libérer. Mais nous marchons avec nos croix quelquefois. Et donc, soyez patients dans la tribulation. Et pour terminer, hein, persévérez dans la prière. Ça, c'est le lien un peu de tout. Persévérez. Il faut persévérer sur cette terre. Persévérez dans la prière, c'est voilà, la persévérance, persévérance. Peut-être on peut regarder Philippiens 4, 6. c'est un verset très, très bien connu, très pratique aussi. Ne vous inquiétez de rien. Oh. Mais Paul, dans ses autres lettres, il dit oh, j'ai chaque jour les inquiétudes de l'Église. Et donc, je ne pense pas que c'était une sorte d'abandon de ses responsabilités. Comme quelquefois les ados qui disent t'inquiète. Et c'est. Non, il faut porter des choses. Mais je dirais, il ne faut pas rester rongé par l'inquiétude. Je pense que l'inquiétude, c'est le tremplin pour l'espérance. L'inquiétude, c'est le tremplin pour la prière. Il faut transformer. La clé, c'est d'assumer pleinement ses responsabilités. Et si vous assumez pleinement vos responsabilités, vous allez avoir des inquiétudes. Mais c'est de ne pas rester bloqué dans ces inquiétudes. C'est ça la clé. C'est pas de dire, voilà, je m'inquiète jamais. Non, mais c'est de, quand ça arrive d'avoir des inquiétudes, c'est parce que vous assumez vos responsabilités. Et après, vous dites, voilà, Seigneur, je vais prier maintenant pour que je ne sois pas rongé par ces inquiétudes, que ces inquiétudes ne volent pas ma joie, et je vais essayer de transformer cette inquiétude en espérance qui va me lancer dans la prière et la foi. Et voilà, peut-être les situations vont changer, peut-être les choses vont aller d'une meilleure manière. Et donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, les grandes choses, les petites choses, en toute chose, par la prière, la supplication, avec les actions de grâce. Et donc, c'était bien de chanter « Merci » ce matin. « Merci, Seigneur. » C'est une belle prière. « Merci, Seigneur. » « Merci, Seigneur. » Tu entres dans la providence de Dieu avec ce « Merci ». On voit la providence de Dieu partout. On oublie de dire « Merci », mais partout, même le fait d'être en santé, de pouvoir parler, de voir, moi, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd. On a beaucoup de choses. On mange, on n'est pas persécuté aujourd'hui, il y a des choses. Merci Seigneur, merci. Et beaucoup de fois, Seigneur, il a répondu à nos prières, mais on ne remarque pas. Et souvent, on a prié des choses et bon, ça s'est arrangé. Peut-être ça a pris du temps, mais il y a des choses, Dieu a déjà répondu aux. Et on vit déjà dans des réponses à la prière, avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos besoins, vos demandes. Voilà, Seigneur, voici telle et telle chose. Et après, il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Voilà, c'est un retour à cette relation vivante, libératrice avec Jésus-Christ. Tout ce que je dis ce matin, ce n'est possible qu'avec Jésus. C'est qu'avec son amour, qu'avec une relation personnelle avec lui. Et la paix de Dieu, shalom. C'est Pascal qui aime nous dire shalom. Shalom, shalom. Et la shalom de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et après, on peut voir Éphésiens 6, 18. Hein, c'est dans le contexte de la bataille. Hein, on est dans une bataille spirituelle sur la terre. Hein, il y a des mauvais esprits, il y a un ennemi, Satan, qui déteste l'Église, qui ne nous aime pas. Il veut nous jouer de mauvais tours dans nos pensées, il veut nous opprimer, il veut nous attaquer. Donc, il dit, il faut être conscient de ça. Voilà, et donc il ne faut, faut pas avoir peur, mais il faut mettre l'armure de Dieu. Il faut avoir des armes. Et donc, voilà, vous connaissez bien la vérité, voilà, comme ceinture. Et après, il dit, il faut mettre le bouclier de la foi. Ça, c'est bien d'avoir le bouclier qui couvre nos oreilles quelquefois, parce que je vois il y a beaucoup de flèches enflammées qui entrent par des oreilles, hein, tac, et après ça colle à notre cœur. Mais d'avoir la foi, d'avoir l'espérance, et après le casque de l'espérance, le bouclier de la foi, chaussures les bonnes dispositions qui donnent l'évangile de la paix et boucle, cuirasse de la justice. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et voilà, verset 18, parce qu'on oublie ça, on oublie souvent que la prière est aussi une arme, ça fait partie de ces armes. Priez en tout temps par l'esprit. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. C'est pas que vous devez prier Saint Rita et Saint machin. Mais priez pour tous les frères et sœurs. Ça, c'est déjà un bon commencement. Priant pour les frères et sœurs. Et après, il dit, et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Et donc, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et finalement, c'est ça, je l'ai déjà dit, mais je termine avec ça aussi. C'est une relation personnelle avec Jésus qui compte. C'est pas la religion, c'est pas la loi, c'est pas des devoirs, mais c'est de connaître cette personne de Jésus et de l'aimer. Et c'est bizarre parce qu'on ne le voit pas. Il est invisible, mais si, je le vois dans le visage de tout le monde, je le vois. Il était présent ce matin, il était dans l'adoration, il était là, il était là, et bien sûr au-delà de... Il est dans la musique, il est dans nos chants, mais au-delà de tout ça, il est dans le... il est là, dans cette liturgie qui monte vers le ciel, cette adoration. Il est là quand on chante l'adoration, il est dans nos cœurs. On n'est pas là dans un club social, dans un concert. Voilà, ça fait du bien, mais il est là, il imprègne. Et Dieu habite les louanges, il s'incarne dans les louanges de son peuple. Il est là dans la communion fraternelle, dans chacun de nous. Ça, c'est une des plus belles choses, c'est d'apprendre de voir Jésus dans l'autre. Ça, c'est magnifique. Il est là dans le repas que nous venons de manger. Il est là. Sa parole a dit, c'est mon corps. Sa parole a dit, c'est mon sang. Et la parole avec aliment, ça égale sacrement. Et c'est vraiment la parole de Dieu. Il est là. Il est là dans sa parole proclamée. Le Saint-Esprit prend sa parole et Jésus est là. Et donc nous avons rencontré Jésus ce matin. Nous avons rencontré Jésus et sa présence nous donne la joie. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation et persévérez dans la prière. Amen.